France Culture.
Que personne ne bouge, les midis continuent. Tout à l'heure à 13h, je recevrai l'autrice de BD, Nine Antico. Mais tout de suite, on retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture cette fois.
Et bonjour à tous. Après la finale de Drag Race France sur France Télévisions, place à la tournée All Stars qui commence demain avec un premier show à la salle Playel, puis de nombreuses dates dans toute la France. L'occasion pour nous de revenir sur l'engouement autour des spectacles de drag. Marion Cazot, bonjour. Vous travaillez sur l'autoreprésentation et les pratiques performatives queer de 1980 à aujourd'hui. La finale de Drag Race France a eu lieu fin août. C'est Mamie Walla qui a gagné cette 4e édition. C'est une émission toujours très suivie. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que cette émission de télévision a démocratisé la figure du drag en France ?
Oui, complètement. Elle a permis... en fait, au grand public d'avoir connaissance de cette pratique, de la continuation de cette pratique qui nous provient des cabarets français finalement ici, et de pouvoir peut-être accéder aux scènes plus locales.
Alors est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer cet entretien nous définir, quand vous parlez de cette pratique qui vient des cabarets français, comment vous pourriez définir la pratique du drag aujourd'hui ?
Alors le drag, c'est une pratique performative, donc généralement ça va être sur une chanson de playback qu'un ou qu'une artiste va venir performer, soit avec de l'humour, soit avec de la danse, du chant en live, une pratique plus théâtrale, et ça va être la création d'un personnage ex nihilo, donc à partir de rien, qui est soit genré, féminin, masculin, soit non genré. Et donc on parle là plutôt de créatures.
Est-ce qu'on peut dire que cette question du genre, elle est au cœur de la pratique drag ?
Oui, elle vient vraiment des pratiques de travestissement, donc de changement de genre, même si aujourd'hui, il y a par exemple des femmes dans le civil qui ont un personnage féminin sur la scène et inversement, des hommes qui ont un personnage masculin sur scène. Maintenant, les frontières sont beaucoup moins strictes.
Alors, vous le disiez, l'émission de télé a favorisé la démocratisation de cette figure drag. Et pourtant, je crois qu'on s'en souvient tous, l'été dernier, pendant la cérémonie des JO, lors de la scène avec les drags, alors la scène avec les deux orthographes, mais les réactions du public, et j'entends du public français, je parle même pas à l'international, ont quand même été très violentes, ont été très en contre de cette figure du drag. Comment vous expliquez cette double apparence, à la fois la démocratisation et en même temps un rejet de cette figure-là ?
Alors, je pense que c'est une pratique qui polarise beaucoup le public. Soit on adore, soit on déteste. C'est difficile d'être complètement insensible. Et il y a pour moi, dans les JO, aussi un changement d'espace. Généralement, on accepte les dragues quand elles sont dans leur espace propre, dans leur soirée propre. Et là, les dragues venaient dans un espace qui n'était pas le leur. Et donc du coup, elle venait percer finalement le quotidien de la population. Et c'est peut-être ça qui était plus déroutant pour le public.
Alors, est-ce qu'il y a des spécificités des drags français ? Parce que Drag Race, là on parle du Drag Race français, mais évidemment ça existe, cette émission de télé existe partout ailleurs, enfin dans plusieurs pays. Est-ce que vous diriez que le drag français est différent d'autres figures de drag ailleurs ?
Oui, bien sûr, chaque pays, chaque aire géographique, même chaque ville, a ses propres spécificités. Le drag français, il est vraiment singulier dans sa généalogie avec le cabaret français. Madame Arthur, chez Michou, etc. Il y a vraiment quelque chose qui vient de là. Un drag qui est aussi très drôle, qui joue beaucoup de l'ironie, de l'autodérision, et qui n'hésite pas à être laid. C'est-à-dire une figure un peu moins glamour peut-être que ce qui peut se passer ou ce qu'on peut voir des États-Unis, et une pratique un peu moins décomplexée, avec aussi en France une pratique qui est très politique.
Alors justement, j'allais y revenir parce qu'évidemment, il y a une portée politique sur cette figure du drag. Est-ce qu'elle est toujours à l'œuvre aujourd'hui ? Et est-ce qu'une émission de télé qui se veut très grand public, très populaire, ajoute une dimension politique ou au contraire, est-ce qu'elle l'amoindrit ?
Tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là. Je trouve qu'elle ouvre une pédagogie sur les vécus LGBT. Mais par contre, on a bien vu dans cette saison, du coup, que le personnage, par exemple, de Soa de Muse, qui est très politisé, avait du mal à trouver sa place dans l'émission.
Très politisé, vous pouvez nous raconter pourquoi c'était très politisé ?
Oui, alors Soa de Muse, c'est une candidate qui est très vocable sur les luttes actuelles, sur le Soudan, le Congo, la Palestine notamment, qui est une militante antiraciste aussi dans le civil, mais aussi dans le drag. Et c'est parfois des discours qui sont difficilement audibles dans une émission qui reste une émission de télé-réalité finalement. Et donc elle s'est pas retrouvée en phase avec le cadre de l'émission. Et elle est partie finalement assez vite par rapport à son niveau. Et donc dans Drag Race France et même dans tous les Drag Race, le discours politique, il est possible, mais dans une certaine mesure. Et donc on a vu que voilà, le public peut avoir une certaine frustration par rapport à ça.
Alors, on parlait de l'émission de télé, mais il n'y a pas que les émissions de télé, et ce sera ma dernière question. Il y a aussi des spectacles de drag dans des lieux différents, dans des bars, dans des boîtes, et ce, un peu partout en France. Est-ce que la médiatisation de la pratique a changé quelque chose, et sur leur contenu artistique, et sur le public qui vient les voir?
Alors oui, complètement. Le public, il est de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est assez positif pour les dragues locales. Mais par contre, le public qui provient de Drag Race a souvent des attentes très hautes envers les artistes locaux qui n'ont pas forcément les moyens et le temps de se consacrer à des tenues extrêmement spectaculaires ou des perruques qui valent plusieurs centaines d'euros. Et donc il peut y avoir une déception de la part de ce public-là. Alors soit il comprend les spécificités de la scène locale, il accepte et il soutient, soit c'est un public qui effectivement ne reviendra pas.
Et qui est le public aujourd'hui?
Alors le public, il est quand même majoritairement communautaire, donc LGBTI. Et après, il y a quand même énormément de femmes hétérosexuelles qui sont fans de Drag Race et qui viennent régulièrement aux shows locaux.
Alors je parlais des boîtes et des bars, mais il y a aussi des lieux plus institutionnels maintenant qui accueillent ces shows.
Oui, tout à fait. Il y a des musées, des galeries, des théâtres, des scènes artistiques d'art vivant. Et notamment le travail de la drague Élisée Moon sur Paris notamment, qui est à la fois drague et guide conférencière et qui peut faire des visites en drague dans des musées tout à fait institutionnels.
Et ça, pour vous, c'est une bonne chose pour la scène drague que la pratique s'institutionnalise?
Alors c'est intéressant qu'une partie de la scène drague s'institutionnalise pour la légitimité artistique, pour la création de discours, pour que les gens puissent écrire dessus. Qu'on ait des archives aussi, parce que le drag est une pratique qui n'a que très peu d'archives. Mais il faut que le drag ne soit pas entièrement institutionnalisé pour qu'il puisse garder sa liberté de création.
Bien, merci beaucoup Marion Cazot.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris hier le licenciement du directeur de la MEP à Paris.
Oui, depuis 7 ans, le Britannique Simon Baker dirigeait la Maison européenne de la photographie située dans le 4e arrondissement à Paris. L'institution a annoncé dans un communiqué qu'elle se séparait de son directeur sans pour autant en expliquer les raisons précises. Une décision qui étonne, hein. Simon Baker a en effet modernisé la MEP, en a fait l'un des lieux incontournables de la photographie en France, en proposant des expositions pointues, célébrant autant des photographes émergents que des photographes reconnus. Dans l'attente de la nomination de son successeur, l'intérim sera assuré par Caroline Miller, l'actuelle administratrice générale de la MEP.
Et pour finir, Marie, le Festival du Livre de Besançon accueillera finalement l'écrivain Raphaël Enthoven.
Oui, la maire de Besançon, Anne Vigneault, avait annulé la venue de Raphaël Enthoven au Festival Livre dans la boucle qui doit se tenir la semaine prochaine dans sa ville. En cause, les propos tenus en août dernier par Raphaël Enthoven sur Gaza. Il avait déclaré, je le cite, « Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. » Face à cette décision jugée contraire à la liberté d'expression, plusieurs écrivains, parmi lesquels Johannes Farr ou encore Emmanuel Carrère, ont décidé d'annuler leur participation au festival. Alors devant l'ampleur des réactions, la maire est revenue sur sa décision. Le philosophe, lui, a indiqué avoir regretté ses déclarations sur Gaza et a annoncé qu'il se rendrait bien à Besançon.
Merci Marie et on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.